Radio Django. Vivre à Lausanne.
Alors, vous le savez, nous avons le plaisir de présenter le nouveau numéro, le 23e, qui couvre le mois de juin et de juillet du journal Moins, le bimestriel créé sous l'impulsion des militants et militantes du réseau d'objecteurs de croissance, avec Mathieu Glaire. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Donc, moi, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est un journal qui anime les débats politiques romands et nationaux. Il est l'invité de Radio Django pour lancer radiophoniquement ses numéros. Et ça tombe bien parce que à Django, ici, on aime bien lancer les débats et réflexions sur les thématiques qui touchent à des collectivités, n'est-ce pas, Fabio ?
Absolument, Fabien. Bonsoir, Mathieu. Alors, on va vernir en quelque sorte ce bimestriel de numéro 23, mais qui est déjà sorti il y a quelque temps, parce que en fait, un peu avant la vraie date de sa sortie, parce que vous avez inséré un dossier sur le RBI, le revenu de base inconditionnel, sur lequel on a voté dimanche passé.
Oui, bon, c'est toujours.
Voilà, c'est deux jours. On rappelle, 23% des Suisses ont accepté quand même cette idée du RBI. Vous avez participé à ce débat, en fait, par toute une série d'articles absolument riches et qui sont de plusieurs tendances. Hein. La première question, Mathieu, est-ce que dans la presse, en dehors de moi, comment tu as trouvé que le thème a été traité ?
Alors, on a trouvé que le thème était extrêmement maltraité, c'est-à-dire que on peut être pour ou contre le revenu de base. Hein. Je crois qu'il y a des arguments intéressants des deux côtés. Par contre, il y a vraiment là de quoi avoir un débat de société intéressant sur des thèmes qui nous touchent, notre rapport au travail. C'est vrai qu'en Suisse en particulier, mais dans les pays du Nord, on a un rapport au travail qui est assez particulier hein, quand on compare avec certains pays du Sud où le travail joue un rôle énorme dans nos vies. Donc il y a de quoi débattre. Et c'est sûr que le débat dans les grands médias est extrêmement pauvre. Hein. On s'est vraiment focalisé sur le financement. Est-ce qu'on pourra financer ou pas ? Alors que fondamentalement, c'est sûr que le revenu de base peut avoir un coût important, mais il s'agit d'une décision politique. Est-ce qu'on veut se donner les moyens de mettre en place un revenu de base ou pas ? Telle est la question qui n'a pas été posée. On a eu des affiches caricaturales. On a eu, même, je trouve, les initiateurs qui, en fixant un montant, ont focalisé sur, justement, un montant fixe et l'argent, etc. Donc, je trouve que des deux côtés, le débat a été relativement pauvre. On a évité des thèmes qui étaient vraiment intéressants. Et du coup,
Alors, vous êtes venu là, puis vous nourrissez un peu cette réflexion qu'il faut le dire, à l'instar peut-être de la VS, de congé maternité, comme les médias en ont parlé. Ça met du temps, il faut réfléchir, il faut penser à qu'est-ce que ça pourrait devenir dans la mesure où on pourra pas faire autrement qu'un jour retrouver un revenu de base pour les personnes. Alors, on trouve une foultitude d'articles dans Moins. Pour et contre, en fait, toi, hein, avec certains critiques, etc. Est-ce que tu nous résumes un peu cette grande masse de
Oui, pensées. Alors je dirais que même effectivement, à l'intérieur de la rédaction, il y avait des débats, des discussions, tout le monde n'était pas d'accord. En gros, il y a quand même une certaine critique vis-à-vis de ce revenu de base, pour des raisons différentes de celles qu'on a lues dans les grands médias. Mais en gros, on peut résumer en disant, je crois que d'un côté, on voit bien l'intérêt que peut présenter un revenu de base, dans le sens que tout plein d'activités, qu'elles soient militantes, artistiques, tout plein d'activités qui sont peu reconnues au jour d'aujourd'hui, que des gens aimeraient pouvoir mener, mais qui sont difficiles dans une société productiviste, capitaliste, etc., un revenu de base permettrait évidemment une marge de manœuvre plus grande à plein de personnes qui désireraient faire des choses importantes plus facilement, comme voilà, l'art, la culture, etc. Donc là, je crois qu'on voit assez bien un certain potentiel, on dira, libérateur d'une pression économique pour nous, pour les gens. Donc voilà, en gros, en tout cas, un argument intéressant. Et puis, des arguments, disons, qui nous ont travaillé, il y en a plusieurs qui sont plutôt contre, qui serait de signaler qu'il y a le fait de recevoir sous forme monétaire, le fait de ne pas remettre fondamentalement en cause une société productiviste, puisqu'il faut bien produire de l'argent, puisque ce revenu est distribué sous forme d'argent. Donc il y a une insertion très forte quand même de ce revenu dans la société productiviste d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a certaines questions de fond qui nous semblaient devoir être soulevées, puis qu'on a essayé de soulever dans ce dossier.
Il y a même un article, je ne sais plus lequel, hein, il y en a tellement, qui dit est-ce que ce n'est pas une mesure un peu libérale, en fait, hein, parce que tout à coup, les patrons d'entreprise vont se décharger sur l'État pour se préoccuper un peu de ce qui va être l'occupation ou la non-occupation dans le futur.
Oui, c'est vrai qu'on voit depuis l'origine d'une idée d'un revenu universel au XIXe siècle qu'il y a des personnes, on pourra dire de droite, des personnes libérales qui défendent ce revenu. Actuellement, en particulier dans certains pays comme en Finlande, j'ai un doute, mais en tout cas dans des pays scandinaves, il y a une proposition de mettre sur pied un revenu inconditionnel, mais qui supprimerait en fait tous les autres aides sociales. Donc il y a effectivement, il ne faut pas cacher qu'il y a des forces qui ne sont pas forcément progressistes qui militent pour ça. Donc il faut être conscient qu'il y a un risque, surtout en Suisse où le filet social peut être très largement amélioré, mais il existe, donc il y a un risque effectivement de sous-enchère sociale avec un revenu de base, donc on tenait à souligner aussi cela.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du travail. À quoi sert le travail ? Pourquoi on travaille ? Est-ce que c'est le salaire qui détermine le travail qu'on fait, en quelque sorte ? Alors que peut-être qu'il faudrait se dire de quoi j'ai besoin dans ma vie pour vivre décemment, pour ne pas pousser à une croissance illimitée. J'ai besoin de ça, donc je vais travailler pour ce montant-là. Enfin, c'est inverser un petit peu le rôle salaire-travail, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est un des articles qui va assez à fond là-dedans. C'est des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Une autre, notamment, sur une femme, Alessia Didio, qui parle du RBI du côté des femmes. Enfin, vu du côté des femmes. C'est une mesure, encore une fois, masculine.
Oui, elle propose cette idée que l'idée d'un revenu de base inconditionnel ne pouvait germer que dans la tête d'un homme.
Ouais.
Et c'est effectivement une réflexion intéressante.
Et là aussi, de nouveau, travail salarié, travail qui n'est pas salarié, mais qui est le travail domestique, etc. Mm-hmm. Voilà, avec toi. Bon, dossier magnifique, génial. Il faut lire moins, ne serait-ce que pour avancer un peu dans cette idée de décloître un peu les idées, etc. COP 21.
Un bon sujet, hein.
COP 21.
C'est conséquent aussi.
Le titre du... C'est FLOP 21, je crois.
Oui, c'est un jeu de mots un peu facile.
C'est un jeu de mots facile, d'accord. Un entretien avec Daniel Tanuro, qui est... je ne me rappelle plus, mais qui est...
C'est un éco-socialiste belge, qui est aussi ingénieur agronome. Donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait reconnu en termes aussi universitaires. C'est un professeur à l'université à Louvain-la-Neuve et qui est aussi militant éco-socialiste et qui est venu il n'y a pas longtemps... en Suisse romande, dans le cadre de l'université de printemps du Parti Solidarité. Et puis, on a profité de sa venue ici pour l'interviewer sur cette question dont il est un spécialiste.
Et il est très critique, en tout cas, sur la COP 21.
Oui, il est très critique sur la COP 21. Ça prolonge un article qu'on avait fait à l'automne dernier avec j'ai un blanc sur son nom, parce que c'était un Pablo Solon, voilà, qui était un politicien bolivien, et puis ils ont travaillé ensemble, donc ils se répondaient aussi l'un l'autre dans ces articles pour dire qu'effectivement la COP 21 était une farce au-delà des effets de manche médiatiques et gouvernementaux qu'on a pu faire. Mais voilà, Daniel Tanuro dans cet article remet un petit peu les choses au point, voilà où on en est, voilà ce qu'il faudrait faire, et puis voilà ce que l'accord permet de faire. Donc il montre qu'il y a un gouffre entre ce qu'il faudrait faire, même selon les scientifiques les plus pointus, hein, il ne s'agit pas d'un point de vue, disons, de Khmer vert, hein, c'est vraiment selon les scientifiques les plus au point, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à quoi est-ce que se sont engagés les gouvernements, et puis on se rend compte qu'il y a vraiment un fossé.
Et puis, bon, il montre aussi qu'un certain nombre de scientifiques proposent des solutions, mais c'est un petit peu... comment dire, tiré par les cheveux, non ?
Oui, alors il parle de technologie d'apprenti sorcier, hein, c'est ouais, tout ce qui ça. Concerne la géo-ingénierie. Ben, effectivement, il explique que comme ce qu'il faudrait faire pour maintenir le réchauffement en deçà des 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, ce qu'il faudrait faire pour les maintenir en dessous de ce seuil, par rapport à la société productiviste, au monde capitaliste d'aujourd'hui, c'est tellement difficile en réalité, voire impossible. Et puis évidemment, pour les grands de ce monde, diminuer la production n'est pas envisageable. Donc on imagine des technologies qui hyper complexes, hyper dangereuses, dont on sait assez peu de choses, et qui permettraient, entre guillemets, le miracle de préserver autant l'environnement que les bénéfices des grandes entreprises.
Oui, j'imagine. On saute un peu du coq à l'âne, enfin non, peut-être pas, mais l'antispécisme. Vous avez inséré un article sur...
Alors, sauter du coq à l'âne, c'était une très bonne expression. Pour parler d'antispécisme, oui, même pas génial. Fait exprès, mais la transition était pas mal. Hein. On aurait voulu la faire, qu'on n'aurait pas pu.
En fait, du coq à l'âne. Antispécisme, le fait de traiter toute espèce vivante de manière égalitaire, c'est un des discours qu'on entend de plus en plus. Hein. Tiens, c'est peut-être un hasard. De quel point de vue vous avez parlé de l'antispécisme ?
Alors le but, c'était d'essayer de faire connaître un petit peu ce qu'est l'antispécisme. Je crois qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui, peut-être plus de tout ce qui est voilà, dans le domaine du végétarisme, on parle de véganisme, etc. Donc on sent qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs types, disons, de rapports aux animaux. Et puis l'antispécisme présente donc une vision, une manière pour l'être humain de se relier au monde et aux autres êtres vivants, en particulier les animaux, qui nous semblaient intéressantes. Donc on avait envie d'en parler. Donc en fait, on a invité 2 personnes. Une personne qui fait partie, qui est donc antispéciste, qui fait partie d'un collectif qui défend les droits des animaux. Et puis une personne qui est un philosophe et puis qui s'interroge sur certaines tendances de la modernité. Et puis donc qui dialogue autour du respect de l'animal, du rapport entre l'humain et l'animal, de la frontière artificielle ou naturelle que l'on érige ou bien qui existe naturellement entre l'humain et la nature, et les animaux.
Est-ce que vous allez continuer, par exemple, sur l'antispécisme ou sur le spécisme, comme ça, vous allez continuer un peu à ramener des réflexions ? Parce que tout à coup, c'est un article avec un peu le pour et le contre, etc., mm-hmm. des théories philosophiques intéressantes. On a envie d'aller un petit peu plus loin.
Je prendrais du coup cette question comme une demande pour un futur dossier.
Non, mais c'était pour savoir si c'était un...
Non, il n'y a rien
Si vous jetez quelque chose un peu à l'eau et puis après vous recueillez aussi un peu des avis...
Non, alors ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de faire un débat sur cette question. Il y a plein de questions qu'on fait une fois un article, qui reviennent une autre fois, sur lesquelles une fois on va faire un dossier. Là, a priori, on n'a pas d'idée derrière la tête, ce qui n'empêche qu'il pourrait très bien y avoir une fois effectivement un dossier complet sur ce rapport sur cette question du rapport entre l'être humain et la nature, en fait.
Oui, bon sujet, hein, qu'on pourra vous recevoir pour en parler quand vous le traiterez, n'est-ce pas ?
Volontiers.
Merci beaucoup, Mathieu Glaire. Petit rappel encore pour acheter ce journal actuellement, où est-ce qu'on peut le trouver ?
Donc ce journal se trouve dans une bonne partie des kiosques de Suisse romande au prix de 5 francs. Et puis vous pouvez nous le commander au prix libre à info@achetezmoins.ch. Il est au prix libre, au numéro, également à l'abonnement.
Merveilleux. Et puis on le reconnaît, hein, cette fois-ci, une grosse enclume. Revenu de base.
Voilà, qui écrase d'un côté la richesse et de l'autre la paix sociale. Voilà
ben, effectivement, on a eu le résultat il n'y a pas longtemps. On se positionne. Tout a été écrasé, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Glaire. Et sachez aussi que le réseau Objection de Croissance Vaud, en partenariat avec Pôle Sud, organise ce soir même, dès 19h, un café des croissances sous le titre de Tout peut changer, avec notamment la projection de Tout peut changer, ça tombe bien, un documentaire signé 2015 de Avi Lewis avec la narration de Naomi Klein. Voilà, ce sera tout à l'heure, juste après cette émission, ici même à Pôle Sud, dans la salle AIDA. Merci beaucoup Fabio pour la préparation de ce sujet.
Je t'en prie.
Et on se retrouve très bientôt avec moi, mais avec d'autres sujets.
Sans sauter du coq à l'âne.